Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Comment lutter contre les risques pris par les toxicomanes quand ils consomment de la drogue? À cette question, de nombreux pays européens comme la Suisse, l'Espagne ou encore l'Allemagne ont répondu par les fameuses salles de shoot ou salles de consommation. En France, la mise en place de ce dispositif est plutôt laborieuse et se heurte souvent à l'hostilité des riverains. Alors après une première salle de shoot ouverte il y a un an près de la Gare du Nord à Paris, une deuxième s'est installée en Alsace à Strasbourg et c'est le reportage de Corinne Fugler.
À Argos, les toxicomanes viennent consommer la drogue qu'ils se sont procurée eux-mêmes sous l'œil d'un infirmier prêt à réagir en cas de malaise. En un an, l'équipe a dû appeler les secours à plusieurs reprises, mais aucune victime de surdose n'a subi de séquelles. Nicolas Ducournau, le coordinateur d'Argos.
Au niveau des overdoses, c'est vrai qu'il y en a très peu qui ont été constatées. Les secours ont dû intervenir à 4 reprises. Parfois, il y a débuts d'overdose qu'on gère en interne. On est tous formés aux premiers secours. Et par rapport à l'extérieur, on a un collègue qui est spécifiquement dédié à cette tâche. Mais c'est tous notre rôle aussi de veiller à ce que tout se passe bien aux abords immédiats de la salle de consommation et puis plus largement dans l'environnement proche.
Argos emploie une quinzaine de personnes, infirmiers, travailleurs sociaux, psychologues. La salle de consommation à moindre risque fonctionne tous les après-midi. Elle est installée dans l'enceinte des hospices civils, l'un des sites du CHU. Son accès est discret, sécurisé. Les habitations les plus proches se trouvent à plusieurs centaines de mètres. Le docteur Alexandre Fels, adjoint au maire de Strasbourg, en charge de la santé.
Les usagers sont d'abord des gens qui sont malades, quand ils ont besoin de soins, aux urgences, pour une hépatite, pour un problème psychiatrique, nous avons des ressources très proches. Voilà, ça c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est sûr que c'est un lieu avec une entrée qui est spécifique, et donc on n'a pas de plainte de riverains, puisqu'on est sur le site historique. Et je dirais aussi symboliquement et historique, on est vraiment sur le site de l'hospice civil, du lieu de l'hospitalité, du lieu de la prise en charge des plus précaires.
50 à 80 usagers fréquentent Argos chaque jour. Les trois quarts sont des hommes, parfois en grande précarité. Nicolas Ducournau.
Il y a des habitués, il y en a beaucoup. Il y a des personnes qui passent plus épisodiquement. Il y a des personnes qu'on peut voir beaucoup pendant un ou deux mois, qu'on ne voit plus, qui reviennent au gré de leur déambulation et existence qui est précaire. Donc parfois au gré d'hospitalisation, de séjour en prison, d'hébergement par un tiers dans d'autres villes. Enfin, les personnes vont et viennent, mais il y a des personnes qu'on connaît depuis un an, depuis le début.
Ces usagers consomment surtout de la cocaïne qui représente plus d'un tiers des substances absorbées dans les box et du skénan, un antidouleur à base de morphine pour un quart des produits consommés. L'héroïne vient en troisième position avec le Subutex. Un visiteur sur deux bénéficie d'ailleurs d'un traitement de substitution. C'est ITAC, association strasbourgeoise spécialisée dans la prise en charge des addictions, qui gère Argos. Les toxicomanes la connaissent bien. L'association anime des permanences médicales ou sociales depuis 25 ans. Cette année, ITAC a déjà échangé 100 000 seringues. Sa structure Argos est un peu plus qu'une salle de shoot. C'est aussi un point de chute pour les SDF en période de grand froid. Olivier habite un squat tout proche. Il sniffe de l'héroïne et il vient aussi pour trouver un peu de chaleur.
C'est bien pour les usagers et même ceux qui sont SDF comme moi qui dort dehors ou quoi. Si on veut rester au chaud, boire un café ou se réchauffer, prendre une douche. Il y a une salle de repos, alors celui-là qui n'a pas dormi toute la nuit peut se reposer.
ITAC aimerait d'ailleurs aménager au-dessus de la salle de shoot une structure lit-halte-soins-santé dotée de quelques lits pour dépanner par grand froid et pour traiter des toxicomanes désocialisés contre l'hépatite C. Sa directrice, Danielle Bader.
L'hiver dernier, il s'est mis à faire très froid et nous avions des usagers de la salle qui venaient nous voir en nous demandant des couvertures de survie parce qu'ils allaient retourner dans leur squat et qu'ils ne souhaitaient pas aller dans les gymnases ouverts pour le plan hivernal à cause de leurs chiens. Là-dessus est venu se greffer le problème de l'accès aux soins ou du soin même de personnes hépatite C à la rue, diabétiques, à la rue, insulinodépendants, à la rue avec des traitements qui normalement doivent être gardés au frais, enfin voilà, et des jeunes gens. Donc on s'est dit ça serait bien d'avoir aussi une part liée halte soins santé, donc 5-6 lits. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait quelques lits d'hébergement d'urgence, tout simplement, pour que les personnes ne soient pas obligées de dormir dehors par grand froid, quoi.
En France, Marseille et Bordeaux pourraient accueillir bientôt une salle de consommation à moindre risque. On en trouve déjà une trentaine en Suisse et 24 en Allemagne.
Semaine des nouvelles élections en Catalogne voulues par Madrid. Cette fois, la question de la langue pratiquée est devenue un véritable enjeu politique. Dans la région indépendantiste, le catalan est déjà enseigné dans la plupart des écoles, avec seulement 2 à 3 heures dévolues au castillan, à l'espagnol, par semaine. Un bienfait pour les uns, une véritable hérésie pour les autres. À Barcelone, le reportage de Laetitia Farine dans une école.
Dans la cour de cette école de Barcelone, les enfants jouent bruyamment comme dans toutes les autres écoles. Et pourtant, ils ont provoqué bien malgré eux une polémique après le référendum illégal tenu par les indépendantistes le 1er octobre dernier. Des parents unionistes se sont en effet inquiétés des propos de leur progéniture, commentant les violences survenues entre les votants et la police nationale ce jour-là. Pour Montse Martí, directrice de cette école dans le centre de Barcelone, parler de ces violences avec les élèves était inévitable.
Dans notre région, nous avons toujours pensé que l'actualité devait avoir sa place en classe. Nous devons travailler sur notre réalité, à tous les niveaux et pas seulement politique. Nous voulons que les élèves soient des citoyens critiques face à la réalité qui les entoure. C'est donc normal que certains enfants aient voulu commenter en classe ce qui s'est passé. C'est une expérience personnelle très dure et traumatique qu'ils ont vécue. Ils ont vu des policiers, ceux qui sont censés les protéger et combattre le mal, comme ils disent, frapper leurs parents, leurs grands-parents et des gens dans la rue. Ils n'ont pas compris pourquoi. C'est donc normal que les professeurs de Catalogne aient voulu recueillir leurs impressions et leurs sentiments.
Après avoir remis en question la neutralité politique des professeurs, les unionistes ont accusé les écoles catalanes de favoriser le catalan face au castillan, la langue espagnole. Un débat dont les origines remontent à 1939. Sous la dictature franquiste, la langue catalane a été bannie de l'espace public. Elle ne reprend ses droits qu'à partir de 1979, au moment de la transition démocratique qui permet aux régions espagnoles de retrouver leur autonomie. En 1984, le catalan devient alors la langue d'apprentissage pour l'enseignement scolaire dans les écoles publiques et les écoles privées sous contrat, alors que le castillan n'est enseigné que comme une deuxième langue vivante. C'est ce qu'on appelle la loi d'immersion linguistique, comme l'explique Montse Martí.
Le but, c'est qu'ils finissent tous par apprendre le catalan et le castillan. Mais ici, selon la réglementation en vigueur, tout se fait en catalan de 3 à 5 ans avec un peu d'anglais. Et à l'école primaire, on commence à introduire le castillan 3 heures par semaine, c'est le minimum prévu par la loi. Nous pensons que c'est suffisant car notre terre, c'est la Catalogne, notre langue, c'est le catalan. De plus, en dehors de l'école, que ce soit dans les magazines ou au cinéma, dans tous les lieux de notre capitale, le castillan est vraiment dominant. Il est donc important de défendre notre patrimoine personnel qui est le catalan.
Désormais, les professeurs peuvent faire cours en castillan dans d'autres matières comme les sciences ou les mathématiques. Selon la loi, si les parents l'exigent, jusqu'à 25% des matières générales peuvent s'enseigner en espagnol. Mais selon Isabel Fernández Alonso, collaboratrice de Société Civile Catalane, la plus importante association unioniste de la région, beaucoup d'établissements refuseraient d'appliquer cette réglementation, et ce, même si la justice l'impose.
Chaque fois qu'un jugement est rendu en faveur de parents demandant plus d'heures en castillan, il est pratiquement impossible que ce soit mis en place, car un processus de quasi-harcèlement se met en place contre les familles. Elles reçoivent énormément de pression de la part des associations de parents, des partis politiques nationalistes et même du département d'enseignement pour renoncer à leur requête.
Thank you.
Dans d'autres régions d'Espagne, comme au Pays Basque, deux autres modèles éducatifs sont également utilisés. Celui du castillan comme langue unique et celui du bilinguisme. Pour Sandra Cunigera, 43 ans, professeure des écoles et mère de deux enfants, c'est ce deuxième modèle qui devrait être privilégié en Catalogne.
Beaucoup d'enfants sont originaires d'autres pays. Il faut donc trouver une langue véhiculaire pour tous, mais sans discriminer le castillan. Nous devrions nous tourner vers le bilinguisme. 50% de castillan et 50% de catalan. J'ai donné des cours de castillan dans certains quartiers où on parlait plus catalan et les élèves avaient beaucoup de mal à s'exprimer en castillan.
L'éducation est devenue en quelques semaines un enjeu majeur pour les élections du 21 décembre. Dans les programmes électoraux, les formations de droite Ciudadanos et le Partido Popular sont les deux seuls à vouloir mettre fin à l'immersion linguistique, tandis que les autres partis défendent ce système qui, selon eux, garantit la cohésion sociale en Catalogne.
L'onde de choc Weinstein ou hashtag MeToo n'en finit pas de se propager et touche désormais tous les milieux professionnels. Après ceux du cinéma ou encore des médias, ce sont ceux du sport qui se trouvent pointés du doigt pour des pratiques abusives. Ainsi en Autriche, l'ancienne championne de ski Nicola Werdenig vient de révéler qu'elle avait été violée à l'âge de 16 ans par un membre de son équipe. Son témoignage a encouragé d'autres sportifs ou sportives à se manifester car harcèlement, abus sexuels, bizutage, voire pédophilie, eh bien les cas semblent nombreux pour certains, même très récents, comme la presse autrichienne s'en est fait l'écho. Céline Béal a justement rencontré Nicola Werdenig à Vienne.
Depuis qu'elle a osé briser le silence, Nicola Werdenig est assaillie. Par les médias, par la justice, la confédération de ski et surtout par d'autres athlètes victimes d'abus sexuels. Toutes l'appellent et pour la première fois parlent de ce qu'elles ont subi elles aussi, d'un entraîneur, d'un coéquipier ou d'un membre du personnel accompagnateur. Elle se dit qu'elle a bien fait de prendre la parole dans le sillage du mouvement MeToo, initié par des actrices hollywoodiennes qui ont dénoncé la normalité des abus sexuels dans leur quotidien.
Ce n'est pas que MeToo m'ait donné du courage, ça m'a plutôt donné l'idée que c'était le bon moment, maintenant que le grand public est sensibilisé. Si je m'étais exprimée publiquement sur le sujet il y a 2 ou 3 ans, ça aurait fait un peu de bruit, mais ça n'aurait pas eu autant d'écho.
Il y a 3 semaines, Nicola Werdenig a donc décidé de raconter son viol à l'âge de 16 ans, par un membre de son équipe, dans le quotidien autrichien Standard. Elle décrit un milieu sportif, dans les années 70, où les abus sexuels et sexistes étaient monnaie courante pour les skieuses. À son témoignage s'est ajouté depuis celui d'autres athlètes, et les journaux publient également régulièrement des cas de bizutage, de viol et de pédophilie dans les académies de ski du pays, jusqu'à aujourd'hui encore. Comment de tels abus systématiques ont-ils pu rester tabous et impunis si longtemps? Selon l'ancienne championne, les responsables de la Confédération autrichienne de ski protègent les coupables.
Il y a des loyautés personnelles, mais ils utilisent aussi la répression, et puis même parfois aussi la corruption.
Répression envers les victimes, corruption envers les éventuels témoins, voire certains journalistes. Au final, les victimes sont prisonnières de rapports de force écrasants et se taisent.
La peur règne parce que tout le système est très influent. Des carrières entières peuvent être contrariées. La Confédération a le bras long parce que le ski autrichien a des liens très forts avec la politique, l'économie et les médias. Il n'y a presque aucun domaine où le ski ne fait pas sentir son influence.
Après les révélations de Nicola Werdenig, les dirigeants, presque exclusivement masculins, de la Confédération de ski autrichienne se sont fait remarquer, d'abord en menaçant la championne de la poursuivre en justice pour diffamation, puis en nuant tout en bloc, avant d'annoncer finalement qu'ils régleraient leurs affaires en interne.
La Confédération trouve que c'est très bien d'élucider les cas par elle-même et de les régler à sa manière, de façon patriarcale. Les responsables ont en fait un pouvoir total. Ils ont l'exécutif, le législatif et la justice de leur côté.
L'ancienne skieuse fait des recherches sur les abus de pouvoir dans le sport depuis des années. Pour elle, ils sont très nombreux et particulièrement tabous dans le ski autrichien. mais on les retrouve en fait dans d'autres pays et dans d'autres disciplines.
C'est pareil aux échelons supérieurs, les comités olympiques internationaux et autrichiens, la Fédération internationale de ski, mais aussi la FIFA pour le football. Toutes ces organisations fonctionnent selon le même modèle et les principes de l'état de droit n'y ont pas cours. Il faudrait faire quelque chose pour changer ça. Ce sont des situations qui tiennent du fascisme.
Nicolas Verdenic a répondu favorablement à l'invitation du parquet autrichien de faire une déposition, même s'il y a prescription pour son cas. Mais ce qu'elle veut surtout, désormais, c'est fonder une association européenne, indépendante des fédérations, qui pourra soutenir les victimes et lutter pour faire disparaître les abus sexuels du sport professionnel.
Sujet un peu plus souriant pour terminer. Baby Box ou encore Bébé dans la boîte. C'est le nom de l'exposition qui se tient au musée de l'université de Helsinki jusqu'en février prochain dans le cadre du centenaire de l'indépendance du pays. Alors ces boîtes à bébés sont distribuées en fait aux jeunes mamans finlandaises depuis près de 70 ans. Laurent Berthaud a vu l'expo.
À la naissance de leur enfant, les Finlandaises ont le choix entre une prime de 140 euros, 170 l'année prochaine, et une boîte garnie de vêtements et d'accessoires pour bébés. Et en grande majorité, les mamans choisissent la boîte, comme leur mère, grand-mère et parfois arrière-grand-mère, qui toutes ont fait dormir leur bébé dedans. Pia Wolikowski, commissaire de l'exposition.
It was actually recommended to Finnish mothers to make.
Il était recommandé aux mères finlandaises de faire un lit avec cette boîte, car pendant la guerre, il y avait une crise du logement, et en tout cas, pas de chambre à coucher pour tout le monde. Surtout avec tous ces gens qui fuyaient la Carélie occupée par la Russie, et qui n'avaient pas d'endroit pour vivre. Et donc cette boîte était très pratique à utiliser comme couffin. Le bébé pouvait y dormir ses premiers mois.
Et aujourd'hui, les parents se servent encore de cette boîte comme couffin ?
Oui, beaucoup de mères continuent à l'utiliser ainsi. C'est vraiment très finlandais comme tradition. On peut placer cette boîte dans le lit pour bébé, et quand le bébé grandit, quand il atteint les 70 cm, il suffit d'enlever la boîte et de le mettre dans son lit.
La caisse, fabriquée en carton épais aux dimensions standards, pouvait être recouverte de tissu. On trouvait les patrons dans les magazines féminins. Le musée d'Helsinki est parvenu à retrouver 8 boîtes complètes des années 30 à aujourd'hui. Leur contenu et les couleurs des vêtements ont évolué au gré des modes. Dans les plus anciennes de ces boîtes, on trouve une bassine en zinc et un savon. L'hygiène n'était pas très développée. Mais aussi un drap pour la mère, une brosse, des ciseaux, etc. Depuis les années 70, plus de tétine, il s'agit d'encourager l'allaitement maternel. En revanche, on y trouve une boîte de préservatifs. Et depuis 1981, une sorte de gros sac de couchage très épais. Mais pour quel usage ?
En Finlande, vous le savez, il fait froid assez souvent. Et il était recommandé de faire dormir les bébés dehors, même pendant l'hiver.
En dehors de la maison ?
Oui, sur les balcons. Et les bébés dormaient très bien dehors.
Et vous l'avez fait avec vos enfants ?
Oui, nos enfants ont dormi sur notre terrasse, peut-être 2-3 heures par nuit. Cela vous paraît étrange ?
Ah oui, complètement.
Ah bon ?
Aujourd'hui, ces sacs de couchage spécial bébé sont très recherchés des collectionneurs sur Internet, tout comme les hochets des années 70 et 80, devenus eux aussi collectors. Quant aux brosses, elles retrouvent parfois une seconde vie sur le dos des animaux.
Et voilà, l'exposition Baby Box dure jusqu'en février prochain. Il y a juste une petite pause pendant les fêtes de fin d'année à Helsinki. À la réalisation, il y avait Jérémy Bessé. Vous pouvez nous suivre évidemment sur rfi.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute dans quelques instants journal.